Juste une remarque brève à propos des gaspillages qui ont donné lieu à l'invention du mythe trou de la sécurité sociale, qu'il faudrait combler nécessairement. Alors je voudrais poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais du trou de l'armée, du trou de la force de frappe, même du trou du président ? Ça pourrait rapporter beaucoup et donner pas mal de fonds là où il en manque.
Bonsoir, petit message à l'attention du préfet de Toulouse qui se voit dans l'obligation de trouver une solution d'abri pour les personnes qui viennent de passer la nuit sur la place du Capitole. Combien de logements sociaux serait-il possible de créer dans les locaux de l'ancien musée de l'Homme à Paris ? On peut même, si besoin est, faire appel à Jean Nouvel, on lui fait confiance, pour réaménager les lieux. Voilà, c'était Catherine du Périgord.
C'est Yolande Duvar. Et je voulais te remercier, Daniel, d'avoir fait toute une émission, je viens de l'écouter, sur le musée du Quai Branly. Il y aurait effectivement beaucoup, beaucoup à dire là-dessus. J'ai noté au passage le prix d'une œuvre d'Ogon, 4 millions d'euros. Combien peut-on reloger de personnes avec 4 millions d'euros ? Merci d'avoir donné la parole à Aminata Traoré, qui est une grande humaniste et on ne l'entend pas assez souvent. On l'aimerait l'écouter bien davantage. Voilà, je vous remercie. Salut à tous.
J'appelle par rapport à l'émission d'aujourd'hui sur le musée du Quai Branly. Je suis un petit peu déçue pour une fois de l'intervention de la bachiste, si j'y suis, et de l'espèce de naïveté, je trouve, de Mermet concernant les objets comme ça exposés dans les musées, sachant qu'il me semble que ça fait bien longtemps que les musées d'art, d'histoire, etc. sont voilà présentent des objets comme ça sortis de leur contexte, et c'est quand même pas très très nouveau. Donc ça m'a un petit peu énervée, j'ai trouvé ça un peu naïf. D'autre part, il y a eu, je trouve que c'est un sujet trop vaste pour qu'il soit comme ça abordé avec des amalgames un peu trop faciles, je trouve, entre la politique de l'État et puis des politiques comme ça. Enfin, je veux dire, ce sont pas forcément les mêmes personnes qui construisent des musées et qui décident de foutre des noirs dehors, quoi. Ceci dit, je suis assez d'accord sur un certain nombre de points. Moi, je trouve ça imbuvable. La scénographie, elle est très mauvaise. On sait pas où on est. Il y a une concurrence entre l'architecture de Jean Nouvel qui est très grandiloquente et très prétentieuse et la qualité des objets présentés. Pour finir, je dirais, moi, que j'ai trouvé les objets splendides et qu'il faut pas oublier que ça aussi, c'est important, ça fait du bien. Et moi, j'étais très, très heureuse de voir la qualité des objets artisanaux. De toutes ces peuplades, c'est vraiment un bonheur. Voilà. Bye bye.
Et ben voilà, on arrive et on vous écoute avec plaisir. Beaucoup de réactions sur l'émission d'hier. J'ai couru dans les couloirs, hein, je vous avoue la vérité. oui, beaucoup de réactions à l'émission d'hier sur le musée du Quai Branly, une controverse absolument passionnante et qui vous a passionné, si bien qu'on reste aujourd'hui sur ce sujet. Voilà quelques-unes de vos réactions laissées dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour toute l'équipe de la basse. J'y suis, c'est Marjolaine de Bretagne. Le musée du Quai Branly à Paris, pourquoi n'a-t-on pas fait des copies des œuvres tout en rendant à leur pays respectif leurs biens, parce qu'on leur a volé leurs œuvres et on continue à voler leur mémoire, de la mémoire de leurs ancêtres. Il serait temps que la France reconnaisse le fait colonial en libérant les pays encore colonisés et en indemnisant les peuples qu'elle a trompés. Je pense notamment aux Polynésiens et aux 193 explosions nucléaires qu'ils ont dû subir jusqu'à il y a à peine 10 ans. Aujourd'hui, chaque famille a au moins un mort, ou un cancéreux, ou un enfant mal formé par le nucléaire. Il serait bon d'envoyer son soutien à l'Association des victimes du nucléaire, boîte postale 54 84 98 716 PIRAE, ça s'écrit P-I-A-R-A-E, Tahiti, Polynésie française. Je suis un peu troublée. Merci. Au revoir.
Je peux juste te dire que j'étais voir le musée du Quai Branly. J'ai vu des très très beaux objets. Certains m'ont touché, certains m'ont ému, d'autres ont créé chez moi un mouvement de répulsion, quelques problèmes à regarder dans une vitrine des armes ou des casse-têtes qui ont peut-être massacré quelques-uns de mes frères ou de mes sœurs. Effectivement, pas trop d'explications, mais le musée est tellement immense qu'on ne peut pas se permettre non plus de mettre des panneaux de panneaux trop grands d'explications. Je pense que c'est quand même un premier et un bon contact avec d'autres civilisations, d'autres mondes. Maintenant, gros reproche que je ferais à ce musée, c'est que quand tu veux essayer de trouver des ouvrages, quand tu veux essayer de trouver un catalogue de l'exposition permanente qui puisse te donner quelques expositions, c'est le désert complet. Voilà.
Je vous appelle du Diben, un petit port du Nord Finistère, pour réagir par rapport à votre émission sur le musée du Quai Branly, que je n'ai pas toujours pas visité, mais il paraît qu'il y a deux ou trois terres cuites Nok et Ifé, et Nok étant une civilisation disparue du Nigeria qui date entre 500 et 600 ans avant Jésus-Christ, et d'Ifé. Ce sont des pièces qui sont classées patrimoine international de l'UNESCO, par l'UNESCO, et donc qui ont été exportées en France frauduleusement. Il se trouve que la France a fait un arrangement avec l'administration corrompue du président Obasanjo, et j'aimerais bien connaître les termes, sachant que, de toute façon, ces pièces n'avaient pas à voyager illégalement, que ça soit par valise diplomatique ou par conteneur, quoi. D'autre part, quand on relit le supplément du Monde diplomatique sur la création africaine, c'est relativement édifiant, quoi. Quand on sait quel est le business actuel qui se fait, et sachant qu'il n'y a absolument aucun musée digne de ce nom sur les civilisations africaines, sur le continent africain.
Enfin, les arts premiers sont invités à être vus, admirés et visités par le monde contemporain occidental. S'ébahir devant le primitif non occidental serait-il devenu le nec plus ultra de ce côté du monde ? Une sorte d'exposition coloniale revue et corrigée par la pensée intellectuelle. Reconnaissance tardive ? Enfin, après conquête et colonie, ils ont leur place dans le musée mausolée. Et pourtant, ils furent vivants. On questionne le sens, on se dispute sur le mot objet. Mais que faisaient donc nos anciens, ceux d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie ou bien d'ici? Ils questionnaient le mystère. Est-ce que ce n'est pas faire du sens? Puis ils l'offraient, ils le partageaient dans un rituel. N'est-ce pas donner du sens que de partager avec les siens? Pauvres objets lointains, éloignés aujourd'hui du sens, soumis à notre émotion esthétique, proie du marché et des connaisseurs et autres amateurs éclairés ou non. Mais qu'en est-il des pauvres créateurs plasticiens contemporains? Désespérément, ils courent après le sens. Mais le seul rituel qui leur reste, il faut bien vivre, est de se confronter au marché, chercher l'objet. Et oui, c'est une belle chose que de reconnaître enfin que ces peuples que nous avons laminés et aplatis avaient une culture. Mais que se serait-il passé si au lieu des militaires, mercenaires et missionnaires, on avait envoyé là-bas des poètes et des troubadours pour échanger des chansons et des proverbes? Aurait-on aujourd'hui besoin de conduire l'art au mausolée et de construire des murs autour des nations? Merci à vous, là-bas si j'y suis, de nous tenir en éveil et résister pour que nous puissions continuer à créer.
Bonjour, toute l'équipe de là-bas si j'y suis, c'est Marjolaine de Bretagne. Le musée du Quai Branly à Paris, pourquoi n'a-t-on pas fait des copies des œuvres tout en rendant à leur pays respectif leurs biens? Parce qu'on leur a volé leurs œuvres et on continue à voler leur mémoire, la mémoire de leurs ancêtres. Il serait temps que la France reconnaisse le fait colonial en libérant les pays encore colonisés et en indemnisant les peuples qu'elle a trompés. Je pense notamment aux Polynésiens et aux 193 explosions nucléaires qu'ils ont dû subir jusqu'à il y a à peine 10 ans. Aujourd'hui, chaque famille a au moins un mort ou un cancéreux ou un enfant mal formé par le nucléaire. Il serait bon d'envoyer son soutien à l'Association des victimes du nucléaire, boîte postale 54 84 98 716 PIRAE, ça s'écrit P-I-A-R-A-E, Tahiti, Polynésie française. Je suis un peu troublée. Merci, au revoir.
dessin dont je vous avais parlé.
Ah voilà, ouais, ouais, formidable. C'est un dessin de Wilhelm magnifique. Ah oui, enfin, formidable si on peut dire. C'est les boat people qui arrivent probablement vers les Canaries, qui arrivent vers les Canaries ou qui arrivent vers l'Europe et qui se noient, qui ont des souffrances terribles et à un garde-côte qui les menace de son, avec son flingue, les pauvres gens, les pauvres Africains disent « Nous venons visiter le musée des arts premiers ».
L'amiral Bléau, secrétaire d'État à la Marine et aux colonies, et M. Hautecoeur, directeur général des Beaux-Arts, inaugurent à Paris une exposition qui montre l'influence de l'exotisme colonial sur le décor de la vie française. Des porcelaines de Sèvres inspirées de l'art turc. Une nature morte de Gauguin. Une commode en bois des îles. Une armoire en lac anamite et le célèbre pavillon en ivoire offert par l'empereur Qianlong à Louis XV.
Cette nouvelle institution, dédiée aux cultures autres, sera pour celles et ceux qui le visiteront une incomparable expérience esthétique, en même temps qu'une leçon d'humanité indispensable à notre temps.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Renaud Lambert, le musée du Quai Branly.
Flight number 2, arriving from...
Tiene que saber moderarse a tiempo, hombre.
Retirarse, una buena retirada.
Yo di parla.
Ça c'est quoi, ils sont magnifiques ces masques.
Ça c'est au moment de fête des moutons aussi chez nous.
Et ça sert à quoi?
C'est sacré ça.
Chaque fin d'année on porte ces masques là, ah. C'est ça. C'est pas tout le monde qui porte, donc c'est les chefs des Tchébalins que je viens de vous dire là-bas. Les chefs des jeunes quoi.
Tchébalins.
Voilà. Ouais.
Donc, tu es en train de me dire que ça continue ces traditions. Hein. Quel âge tu as toi?
Moi j'ai 33 ans.
Et toi?
Moi ça me fait bientôt 29 maintenant.
C'est ça, mais c'est-à-dire que vous êtes jeune et ça continue tout.
Ça continue, oui. Ouais, c'est le moment, si, au moment quand je suis parti faire ça, si tu n'es pas parti avec nous, cela veut dire qu'on te dit blakoro, blakoro, cela veut dire que tu n'es pas devenu un homme complet d'abord quoi. Donc pour être un homme complet, la nuit même tu portes ce masque-là et tu viens, tu retournes à la maison. Donc, on va dire que maintenant, il est devenu, c'est pas majeur, quoi. Donc, il est devenu majeur, il n'est plus blakoro. Mais si tu n'as pas fait ça, même si tu as 33 ans, on te dit blakoro, blakoro, cela veut dire que c'est un homme même qui n'est même pas circoncis, quoi. C'est comme ça, on dit chez nous. Cela veut dire que tu n'es pas comme les autres hommes, parce que les autres hommes, ils ont fait quelque chose pour montrer qu'ils sont hommes.
C'est ça, voilà. C'est l'initiation, quoi.
Voilà. Nous aussi, c'est le moment aussi que on se croise et on voit, on montre des pouvoirs. Il y a des pouvoirs africains qui se passent en Afrique. C'est le moment aussi que les gens trouvent des occasions pour montrer leur pouvoir aussi.
Et voilà, nous revoilà au musée du Quai Branly avec nos deux amis, Séméga et Posso. L'un, Séméga, est du Mali, Posso est de la Côte d'Ivoire, mais aussi ils sont de Cachan. Et oui, on les a trouvés avec Renaud, on les a trouvés à Cachan, pas n'importe où à Cachan, dans le gymnase de Cachan. Vous vous souvenez l'occupation et de cette histoire terrible. Et on est allé les voir là, leur dire, est-ce que vous voulez venir visiter avec nous le musée du Quai Branly, qui rend hommage, entre autres, à la culture et la civilisation de vos pays. Et ils sont venus. Mais on ne pouvait pas deviner par avance que ces deux jeunes garçons, deux jeunes hommes, connaissaient aussi bien leur propre culture, parce qu'ils sont jeunes, on s'est dit ben, ça doit être des vieilles histoires, et pas du tout. Et ça nous a passionnés, ça vous passionne, on le sait, mais ça a passionné aussi les visiteurs qui étaient autour de nous ce jour-là et qui étaient en train d'admirer, puisqu'il s'agit d'admirer, d'admirer les objets présentés au musée du Quai Branly. Mais tout d'un coup, ils avaient des garçons qui étaient là, qui leur disaient un peu ce que c'est et à quoi ça sert et la fonction et les interrogations et le rôle de ces objets. Et tout d'un coup, tout devenait intéressant, passionnant et pas du tout folklorisant. On dit, ah, ils ont fait ça, ils ont voilà. Et alors, c'est là qu'on comprend tout de suite d'emblée que la façon dont ces objets sont présentés, eh bien, fabrique et engendre un terrible malentendu, puisque beaucoup de ces objets ont un caractère sacré et donc secret. J'associe tout de suite ces deux mots, sacré et donc secret, alors qu'ils sont là présentés à l'usage et à l'usure de regards sans désir. C'est très important de bien faire attention à tout cela. Ces objets ont une signification, ont une fonction, sont des réponses à des grandes questions que ces civilisations négro-africaines se sont posées, mais que nous nous sommes posées aussi, que nous continuons de nous poser, tout comme les peuples des Amériques, d'Océanie, d'Asie, de partout, parce qu'il y a quand même une condition humaine, des mystères qui nous hantent tous et auxquels nous avons tâché de donner des réponses, des répliques, des dialogues. Et ces objets sont autant de moyens de dialoguer avec ces grands mystères et ces grandes interrogations qui hantent l'histoire des hommes, mais ils ne sont que des moyens. Or, lorsque les missionnaires sont arrivés sur ces terres sauvages et barbares, dans ces peuplades, comme disait tout à l'heure cette auditrice, malheureusement, eh bien, ils ont dit, il ne faut pas admirer les fétiches. Vous êtes des fétichistes. Oui. Et il faut lever vos âmes vers Dieu. C'est seulement par ce moyen que vous deviendrez des êtres humains. Et ça nous renvoie évidemment au conflit, à la vieille controverse, la vieille polémique des iconoclastes et des iconophiles. On admirait les images jusqu'au point de les considérer comme une fin en soi, les images. Il y a encore des cultures ou des aspects de certaines religions dans le monde qui sont d'admiration pour l'image elle-même. Or, par exemple, dans une grande partie de l'islam, on a interdit l'image. Pourquoi ? Parce qu'on dit, c'est pas l'image qui compte, c'est Dieu. Et aujourd'hui, il y a un grand bond en arrière, c'est le cas de le dire, où, à nouveau, ces objets sont devenus des fétiches, sont devenus des objets admirés en tant que tels et en tant que quoi ? En tant qu'ils sont objets de spéculation. On spécule sur ces objets. Ces arts, ces objets sont devenus des marchandises. La spiritualité qu'ils transportent, les énigmes, cette façon de hisser l'homme au-delà même de ses rêves, tout cela, eh bien, c'est devenu marchandise. Et c'est ces belles marchandises qui sont exposées au musée Branly, où nous allons passer à nouveau cette heure, avec présente à l'esprit cette phrase, ces quelques lignes de Senghor, le président Senghor, en 1966, écoutez bien, en 1966, à Dakar, lors de l'inauguration d'une exposition sur l'art de l'Afrique, Senghor disait ceci, écoutez bien, « Seul l'homme peut rêver et exprimer son rêve en des œuvres qui le dépassent. Et dans ce domaine, le nègre est roi. D'où la valeur exemplaire de la civilisation négro-africaine et la nécessité de la décrypter pour fonder sur elle un nouvel humanisme. »
À Paris, quand tu vois un blanc, il est sale, mais sa maison est propre. Mais quand tu vois un noir, il est propre, mais sa maison est sale.
Depuis on est petit, on nous parle de la France comme pays de rêve, pays de loisirs, un paradis sur terre. Vous-même, vous savez, blanc, ils donnent pas nos cadeaux. qui t'appelait Sylvain Lenoir, c'est que tu es noir. François Mouton, tu ressembles à Mouton. Ils ont appelé le pays France. Nous les noirs, qu'on a entendu franc. Directement, on a pensé à l'argent. Pourtant, quand on dit la France, France, c'est pour les blancs et la souffrance pour les noirs. Allez, n'est-ce
pas?
Allez, n'est-ce
pas?
Bengue est dû, Paris est dû comme caillou. Petit Odé à Paris, dans les tensions décalées. Premier pas dans un métro, un blanc en face de moi qui me dit ceci.
Excusez-moi de vous déranger durant votre voyage. Je suis un jeune français au chômage. J'aimerais un franc ou deux pour manger et dormir au chaud. Celui qui n'a rien, un sourire sera le bienvenu.
Bouche ouverte, étonné de voir blanc me raqueter. Gars blanc demande l'argent. Un blanc moisi dans son propre pays. Mon frère a bien mieux. Allez, n'est-ce
pas?
Allez, n'est-ce
pas?
Bengue est dû. Paris est dû comme caillou. Chers amis africains, je vais à Paris. Vraiment, c'est tout dans la bouche. Mais arrivé sur le terrain,
bon, c'est du thé.
Un petit conseil, tes économies, l'argent des billets d'avion, prends pour payer taxi, un petit commerce. Maintenant, si tu es fâché, que tu veux aller vraiment,
mon ami, c'est là là tu vas manger ton totem.
C'était l'histoire d'un malentendu, ouais. Mais monstrueux, quoi. On nous montre, ouais. On nous montre des objets, mais sans les hommes, sans les légendes. Il suffit que t'aies deux Africains qui soient là, et tout devient, tout prend sens, tout devient intéressant, excitant, alors là, vraiment mystérieux, etc. Beau, religieux, ouais. Philosophique, politique, etc. Mais on a oublié de les mettre là, quoi. Il faut ouais. Qu'on vous trouve le boulot ici.
Oui. Bon, c'est important. C'est que tu connais, tu peux parler sur. Ouais. Et c'est lui-même. Tu sais que moi, je n'ai pas une explication. Je me suis grandi dedans. Je vois les parents, ils faisaient depuis que j'avais pas l'âge. Jusqu'à ce que moi, j'ai l'âge, j'ai continué à les faire. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu mieux parler sur ces masques-là. Tu vois. Parce que j'ai porté.
J'ai porté ces masques-là.
Parce que j'ai porté, c'est une masque. C'est pas tout le monde qui porte. Ouais. C'est peut-être. Ça dépend. Comment ça s'appelle des volontés, la capacité. Est-ce que tu pourrais faire? Est-ce que tu peux le faire? Parce que c'est le moment difficile.
La bravoure.
Voilà, bravo, vraiment, c'est un homme fort, il a pu faire ça. Donc, c'est pas tout le monde qui peut faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire.
C'est l'initiation. Mais qui les fabrique, les masques?
Bon, c'est nous, c'est souvent les forgerons qui découpent. Que va, c'est beaucoup on dit antiquaire ou quoi. Tu sais que bon, c'est les forgerons aussi sont pas pareils. Il y a des forgerons qui fait des dabas, qui fait pas ça.
Dabas c'est quoi?
Dabas avec des petites choses qu'on prend pour cultiver.
D'accord, les forgerons fabriquent les outils pour travailler la terre. Outils,
voilà.
OK. Et puis au moment de la fête, ils fabriquent des masques.
Ils fabriquent des masques, bon, tu trouves que il y a des masques qui sont chez nous depuis mon grand-père qu'on n'a pas fait notre masque. Donc tu trouves que les masques peut-être mon grand-père a utilisé, mon père a utilisé, moi aussi j'ai venu trouver les masques.
Ça peut être des masques très anciens.
Très anciens.
Ça peut être fait par un vieux
ouais, forgeron. On peut parler des 100 ans, hein, c'est ça ou plus. Plus.
Voilà.
Voilà, alors qu'il est, il se peut que ces deux Africains, Séméga et Potso, soient expulsés vers la Côte d'Ivoire, l'un vers le Mali, selon les caprices et les agendas électoraux. Il se peut très bien que ces guides précieux et ces témoins extraordinairement précieux, puisque c'est eux qui font vivre ces objets que nous avons sous les yeux, qui leur donnent un sens, qui leur donnent une épaisseur, qui leur donnent et une vie, et bien au moment même où on vient admirer ces objets, ceux qui en sont après tous les propriétaires, c'est un peu le tour du propriétaire qu'on est en train de faire là, sont virés, crèvent sur les barbelés et autres murs qui nous séparent et qui nous protègent de la misère du monde. Séméga évoque les forgerons alors qu'on est en train de contempler des masques de bois. Alors je lui fais observer, je dis, mais non, tu te trompes, c'est pas des forgerons, c'est des sculpteurs sur bois. Mais il insiste, parce qu'évidemment, c'est le forgeron, celui qui maîtrise le fer, et celui qui a les moyens et le savoir d'affûter les outils, et qui pourra sculpter le bois. Il n'y a pas de sculpteur sur bois qui ne soit forgeron, bien évidemment. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont à la fois des délices, bien sûr. Toutes ces comparaisons nous renvoient à nous-mêmes, etc. Enfin, c'est l'échange, c'est l'émerveillement, l'étonnement d'être là, tout simplement. Et peut-être, comme le disait Senghor, que nous avons à décrypter. Il dit bien Senghor, décrypter ces cultures négro-africaines, comme les océaniennes, comme les amérindiennes, pour fonder un nouvel humanisme. Et cette idée n'est pas neuve au tournant du siècle. Regardez, contemplez les Demoiselles d'Avignon de Picasso, vous voyez que ces artistes, je pense à Picasso, de Rembrandt, etc., regardent ces arts. On va voir qu'on peut hésiter sur ce mot, mais en tous les cas, cherche à dialoguer avec eux et comprennent intuitivement, révélateurs sensibles qu'ils sont, qu'il y a là quelque chose qui dépasse très très largement l'empire et la dictature actuelle de la marchandise. Alors pour parler de tout ça, c'est pas si facile de trouver des scientifiques, des ethnologues qui acceptent de critiquer le musée du Quai Branly, parce que chacun tient à son boulot et à sa carrière, mais il en est de compétents et de courageux à la fois. C'est le cas de Patrick Prado que nous avons rencontré. Patrick Prado, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes, on va dire, anthropologue, ça vous plaît qu'on dise ?
Je ne sais pas trop, ouais. Je suis objetologue,
chosologue. Objetologue, ça change bien. Chosologue, c'est parfait. Alors donc,
je suis chosologue, ou mettre les objets, voilà.
Ou mettre les objets, parce que là, on est en présence, on est au musée du Quai Branly, il s'agit bien d'objets et de choses, et on s'inquiète d'où ça vient, qui les a fait, à quoi ça sert. Alors, toutes ces questions qui se posent tout simplement, on n'a pas les réponses au Quai Branly.
On n'a pas les réponses, pourquoi ? Parce qu'on a des objets purs et durs, installés là par notre décision d'occidentaux de placer des objets dans des endroits où ils n'auraient jamais dû être. Bon, on ne va pas les jeter, mais enfin, ils étaient faits là, dans leur conception d'origine, essentiellement pour les morts. Mmh. Essentiellement pour les morts. C'est pas des objets d'art, hein. C'est des objets de société qui étaient faits. Alors qu'on les rende artistiques, très bien. Notre société à nous vit différemment et autour des objets et avec les objets. Mais ces objets-là n'étaient pas faits pour être là. Alors qu'ils soient là, d'accord. C'est notre point de vue d'occidentaux de les mettre là. Mais disons-le, il faut absolument faire la généalogie de ces objets et dire pourquoi ils sont là. Pourquoi on a brisé les secrets qui fait que ils sont là alors qu'ils n'auraient pas dû y être, alors que ce sont des objets qui sont en principe cachés pour certains d'entre eux, secrets.
La France regarde passionnément vers son empire. La quinzaine impériale s'est ouverte avec solennité. À Vichy, le maréchal Pétain, chef de l'État, et M. Pierre Laval, chef du gouvernement, inaugurent cette série de manifestations en se recueillant devant le monument aux morts. Unis ici, comme ils le furent à chaque chapitre de notre histoire coloniale, un marsouin et un matelot déposent une couronne à la mémoire de ceux qui créèrent l'Empire.
L'Empire, vous n'avez pas connu ça, vous les enfants. L'Empire français, c'est un petit document du 5 juin 1942 qui est particulièrement gratiné. Alors, mais l'histoire coloniale à laquelle inévitablement nous renvoient les objets présentés au musée du Quai Branly, eh bien cette histoire coloniale, elle n'est pas tellement évoquée, ou alors d'une façon, on pourrait dire, succincte, et on pourrait, avec un mauvais esprit, dire honteuse.
Il y a une petite section du musée qui raconte cette histoire coloniale en une dizaine de mini photos collées sur le fameux serpent de cuir, et qu'on le voit à peine, qui est pratiquement invisible. Or, il aurait été intéressant de démarrer avec cette histoire coloniale. montrant que bon, c'est l'aboutissement de cette histoire qui fait que ces objets sont là et qu'ils ont une généalogie. Alors la généalogie n'est pas présente dans le musée tel qu'il est installé par sa scénographie en particulier, mais elle est présente dans les documents extérieur au musée, sur Internet, sur les films, sur les vidéos, etc. Donc il faut faire un travail particulier de recherche au-delà de ces objets pour pouvoir en connaître et l'origine, et le destin, et la généalogie. Or, ça me paraît très important dans cette période où la question du colonialisme est toujours bien pressante, hein, de reposer ce genre de questions, cette origine coloniale, pillage. Vous savez que c'est pas seulement à Branly, mais 140 000 objets des musées américains, par exemple, nord-américains, ont été pillés dans les tombes étrusques et romaines en Italie. 140 000. L'Aphrodite de Getty a été aussi volée, il n'y a pas si longtemps que ça, à l'Italie. C'est pareil pour la Grèce, c'est pareil pour les... Vous savez, ça fait longtemps que ça dure, depuis deux siècles. Les frises du Parthénon sont au British Museum et sont réclamées depuis deux siècles par la Grèce, etc. Donc, on va pas les rendre, forcément, d'accord. Mais au moins, on peut établir cette généalogie qui est aussi notre histoire, pour savoir comment nous les avons redécouverts au début du 19e siècle, à partir de 1906, grâce à des ethnologues, mais grâce aussi évidemment aux artistes.
Pourquoi 1906
C'est en gros au moment où Derain et les premiers, les jeunes Picasso etc., Braque, etc., découvrent ces objets et en font ce qu'ils sont devenus dans notre culture.
Je pense qu'il faut absolument que l'ethnographe élargisse le plus possible son cercle d'investigation. Je dirais même jusqu'à souhaiter que des ethnographes apparaissent dans d'autres civilisations que les nôtres et étudient notre propre civilisation. Si nous devons arriver à la définition d'une nature humaine, je pense que ce n'est que comme cela que nous pouvons y arriver. Je souhaite vivement que cesse cette espèce de division actuelle de population en population que j'appellerai ethnographiante et population que j'appellerai ethnographiée.
Voilà, c'est en 1956, le 17 février 1956, Michel Léris, que vous venez d'entendre, écrivain, poète et ethnologue, qui parlait ainsi. Effectivement, on parle de passerelle, d'échange, etc. C'est pas vrai. Il y a celui qui regarde et celui qui est regardé. Il est bien rare que le souhait de Michel Léris se soit réalisé. Mais cependant, voilà un ethnologue d'origine africaine, Pierre Ahmed Ba.
On peut assister à l'ouverture de ce musée. On peut même se vanter que les objets africains soient reconnus comme étant des références au même titre que les œuvres de Picasso, au même titre que les objets occidentaux. Mais il n'y a aucune langue africaine qui reconnaît le fait même d'art. Et quand quelque chose existe dans une société, la langue de cette société signifie la chose en lui attribuant un nom. Sauf que pour l'art, aucune société africaine ne lui a appliqué un nom. Et pourtant, on parle bien de sculpture. C'est des mots qui existent chez nous. Autant il n'y a pas de mot pour signifier l'avion qui n'est pas la création même de nos sociétés, autant il n'y a pas de mot pour signifier art. Et pourtant, tout ce que rassemble le concept art existe en Afrique. Mais le fait est que, en rassemblant ces productions culturelles au sein d'un concept, on utilise les clés de ce concept. Et ce qui fait aujourd'hui encore la production culturelle appelée art, qui peut exister avec son histoire aussi, que l'histoire soit belle ou vilaine n'est pas la question. Mais le fait est que cette production culturelle ne parle plus aux Africains.
Il faudrait écrire finalement l'histoire de notre regard. Utiliser ces objets comme autant de miroirs sur nous-mêmes, ouais. En dirait long sur nous-mêmes, nous permettrait de savoir qui nous sommes.
Là, justement, à travers ces objets, c'est l'anthropologie du nous qui serait, du soi qui serait intéressant. D'ailleurs, on dit que c'est un musée de l'autre, altérité, etc. Moi, j'ai jamais rencontré un autre purement autre. Hein. J'ai toujours rencontré des gens
Patrick Prado.
Mixtes. Et le fait qu'on ait une sorte d'idée comme ça de la pureté de l'autre, il me paraît une idée tout à fait dangereuse, essentialiste, tout à fait ambiguë. Les Africains sont devenus aussi en partie des Européens, nous sommes devenus aussi en partie des Africains, et il est difficile de distinguer aujourd'hui des artistes africains d'artistes européens.
Et ça, les Picasso et Derain ont mélangé, ont regardé ces objets, et ces productions, et les ont confrontés. Disons à l'art occidental, je pense.
Ils ont été en permanence inspirés par. Ça a été une découverte. Enfin bon, on le sait bien que sans ces masques africains, on n'aurait pas découvert le cubisme. Mm-hmm. C'est quand même incroyable cette mixité des arts. Et ce refus même de l'altérité totale à un des grands artistes de cette époque, du début du siècle précédent, qui fait que on les a pas haussés à notre niveau, on a travaillé avec eux pour faire ce qu'est devenu l'art contemporain, ce qui est tout à fait différent. On les a travaillés, malaxés, mixés, refondus, ça a créé une partie de notre culture contemporaine. Donc moi, je me sens africain dans ce sens-là. Et c'est vrai que, bon, cette histoire est encore à faire du côté de l'ethnographie de Branly. Elle était en cours un petit peu au Musée de l'Homme, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu l'occasion d'une refondation avec Branly, une refondation donc généreuse, mais qui aurait retravaillé cette question de l'objet et du sujet, vous voyez.
Alors,
et de l'auteur, parce qu'il n'y a pas d'auteur africain. Il n'y a pas d'auteur africain. Il n'y a pas le mot art dans les langues africaines. Et il y a combien de langues en Afrique?
Quelques milliers. Dans aucune langue, on ne donne le mot art,
ce qui est tout à fait intéressant, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des sociétés artistes. Et toutes les sociétés, le fait de parler était une œuvre d'art, le fait de danser était une œuvre d'art, le fait de faire de la cuisine était une œuvre d'art. Elle est encore dans certaines sociétés, en France par exemple, faire de la cuisine, c'est encore une œuvre d'art. Mais la vie quotidienne était une œuvre d'art. Or maintenant, comme vous le savez, l'art est extrait de la société quotidienne, disons, de la vie quotidienne, pour en faire le domaine réservé des artistes et des marchands.
L'exposition internationale, après avoir métamorphosé le vieux Trocadéro, regroupe dans ses jardins et sur les rives de la Seine les pavillons aux formes composites et variées de 44 nations étrangères et de 27 régions françaises de nos colonies et protectorats. L'adaptation des besoins modernes aux traditions immortelles qu'impose le climat, la race, les coutumes et les langues dégage une forme d'architecture plus humaine et plus sensible que l'abstrait mathématique et monotone auquel aboutissent les dogmes stériles des espérantistes de l'architecture.
Vous souriez bien sûr en écoutant ces archives qui datent de 1937. Dans 70 ans, on sourira peut-être, très probablement, si toutefois ça peut être conservé, des propos qu'on entend aujourd'hui dans cette émission autour donc du quai Branly, qui s'est ouvert au détriment du Musée de l'Homme. On était hier avec Bernard Dupeigne, qui est un des grands acteurs de ce musée de l'Homme et qui évidemment est assez triste de le voir vide aujourd'hui. C'est un musée fantôme, alors que depuis la terrasse où nous sommes assis sur cette terrasse très agréable du musée de l'Homme, on aperçoit à travers les frondaisons le musée Branly. Alors, puisque c'est le musée de l'Homme, c'est terminé, on va avec Bernard Dupeigne feuilleter quelques pages de l'histoire de ce musée.
Je voudrais quand même qu'on revienne sur le colonialisme. 1931, exposition coloniale, c'est ça. 1937, c'est la création ici de ce palais où nous sommes. Que dit l'ethnologie à ce moment-là? 1931, exposition coloniale, quelle est la position des ethnologues et où sont les objets? Où sont ces pièces?
Oui, en 1931, il y a eu une exposition coloniale qui est
était là pour valoriser l'œuvre de la France dans les colonies.
L'œuvre coloniale.
L'œuvre coloniale de la France, c'était l'époque. Il y avait des intérêts économiques qu'il ne faut pas oublier. Donc, le gouvernement voulait valoriser son œuvre coloniale et les ethnologues, justement, se sont opposés en 1931 à cette exploitation. Il y avait un tract fameux, n'allez pas, ne visitez pas l'exposition coloniale. Et ici, donc à l'époque, ça s'appelait Musée d'ethnographie du Trocadéro, donc en 1931, il y a eu une contre-exposition coloniale. On dit, n'allez pas voir ces bâtiments à la gloire de la colonisation française, venez plutôt chez nous. Nos prédécesseurs voulaient montrer les objets pour valoriser les cultures, et l'exposition coloniale, c'était plutôt pour exalter la grandeur de la France. L'esprit n'est pas tout à fait le même, tout de même.
Et cette exposition coloniale a été aussi critiquée par les surréalistes, hein, et on voit ensuite... alors, situez-moi l'Afrique fantôme de Michel Deris dans cette trajectoire.
Oui, c'est la même époque, c'est 1931, donc l'exposition coloniale au palais de la Porte Dorée, 1931, et c'est la même époque où Michel Deris, Picasso, c'était une bande, donc ça a été la même volonté, y compris du directeur, du fondateur du Musée de l'Homme, Paul Rivet, qui était tout à fait dans ce milieu. Paul Rivet, c'était un des fondateurs du comité antifasciste, puisqu'à l'époque, il y avait l'attaque du palais de Bourbon, ce qu'on appelle des factieux, donc il y avait des...
Ouais, 1934, là.
Voilà, mais donc c'est la même époque où les ethnologues ou les intellectuels autour de ceux qui ont fait le Musée de l'Homme étaient pour la liberté des peuples plus que pour le colonialisme.
La résistance et le Musée de l'Homme.
Oui, il y a un des premiers réseaux de résistance est né ici, justement de la part de ces ethnologues qui se sont opposés aux Allemands. Ils ont édité un journal qu'ils distribuaient. Et évidemment, ils se sont fait attraper assez rapidement. Plusieurs ont été déportés, plusieurs ont été fusillés au Mont-Valérien. Donc le Musée de l'Homme était un des bastions de la liberté des peuples et contre l'occupation, que ce soit l'occupation coloniale ou que ce soit l'occupation par les Allemands.
C'est d'ailleurs, je crois, ce contact avec d'autres civilisations, c'est l'existence du problème du colonialisme et le problème du tiers-monde qui vous ont amené à prendre parti en politique également.
Il n'y a aucun doute. Parmi les injustices sociales, enfin, qui sont très nombreuses et très fortes et qui peuvent révolter, enfin, celle qui m'a toujours le plus révolté, c'est l'injustice coloniale.
Michel Deris, 30 novembre 1966.
Mais qui se trouvent tenir le haut du pavé parce qu'ils sont peut-être de meilleurs industriels que d'autres, c'est tout, de meilleurs mécanos, enfin, je dirais presque, ce mépris, enfin, dont ils écrasent des gens au moins aussi civilisés qu'eux, enfin, d'une façon différente, et qui, à beaucoup d'égards, même pourraient leur donner des leçons.
Pour vous, au fond, l'ethnologie doit être engagée. Elle est de fait.
Là, il me paraît très difficile qu'il en soit autrement. D'abord, pour une raison très simple. Quand on enseigne, enfin, un jeune ethnologue, qu'est-ce que lui apprennent ses maîtres? C'est que qu'il faut qu'il soit en bon terme, qu'il ait des rapports, en somme, sinon amicaux, du moins cordiaux, avec les gens qu'il étudie. Bien. Alors, si j'ai ces rapports cordiaux avec eux, et que ça reste une chose de pure surface, je suis le dernier des hypocrites. Donc je crois que si j'ai ces rapports extérieurement cordiaux, il faut aussi qu'ils le soient profondément. Donc, de fil en aiguille, je suis amené à épouser les soucis, les revendications des gens que j'étudie.
Mais est-ce qu'au fond, Est-ce qu'on vous fait pas payer, est-ce qu'on fait pas payer au Musée de l'Homme et à la culture de, des hommes et des femmes du Musée de l'Homme tout ce passé anticolonial, de résistance? Il n'y a pas quelque chose comme ça, comme une espèce de fronde permanente dans votre travail à Touche depuis si longtemps ?
Oui, les ethnologues sont contestataires, comme souvent à l'éducation nationale, au ministère de la Culture.
Bernard Dupeigne.
Beaucoup plus sage qu'au ministère de l'Éducation nationale. Quand on est dans un pays tout seul, largué, quasiment sans un sou, on est obligé de se débrouiller dans les villages. Donc on a l'habitude de parler et l'habitude d'exister, non pas simplement d'obéir. Donc peut-être que, oui, actuellement, où ce sont les énarques qui dirigent tout, ils n'avaient pas envie que ce soit des scientifiques d'éducation nationale, des ethnologues habitués à parler, qui donnent leur avis sur leur grande œuvre. Oui, je pense que les énarques ont peur des scientifiques.
Surtout quand les scientifiques se mêlent de culture populaire des deux côtés, parce que beaucoup des œuvres qui étaient ici relèvent de la culture populaire au sens planétaire, universel du terme, mais destinées aussi au populaire.
Oui, justement, on gêne.
Destinées à tous, quoi.
Voilà, nous on dit la culture est faite pour tous, et eux, nos détracteurs disent ces objets sont faits pour être vendus, pour être admirés et pour doubler de prix tous les 10 ans. Donc l'esprit n'est pas vraiment le même.
Pas du tout le même, pas du tout le même. Et je suis touché parce que par la fenêtre on voit l'autre partie du palais de Chaillot, hein, on disait, et je peux pas m'empêcher de penser au théâtre national populaire de ma jeunesse qui relevait de la même culture, quoi, de la même intention.
Oui, la même époque, de démocratisation de la culture.
Ouverture au plus grand nombre.
Voilà. Ici,
culture populaire, éducation populaire.
Voilà. Quand le musée de l'Homme a été fondé, donc en 36, avec Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, fusillé par les nazis comme résistant, il voulait. Les textes de fondation sont ça, s'ouvrir au peuple. L'utopie, c'était d'ouvrir le soir pour que les ouvriers puissent venir après leur travail. Or, 1936, c'était ambitieux, mais le musée de l'Homme était très populaire, était visité par beaucoup de gens, les parents, leurs enfants. On ne peut pas dire que c'était... ça embrassait toutes les couches de la société, si, le musée de l'Homme.
Oui, il y a eu un grand projet émancipateur, quoi.
Alors, grand projet émancipateur, voilà, le musée de l'Homme, c'est fini. Le musée du Quai Branly commence avec cette polémique, cette controverse que la direction du Quai Branly, que nous avons sollicité, je le rappelle, n'entend pas assurer, aucune réponse de la part de la direction de ce musée, dont acte, mais il se trouve quand même des ethnologues, des anthropologues, pour faire quelques observations et se poser avec nous la question du trouble qui peut, au-delà de l'ébahissement, gagner le visiteur du musée du Quai Branly.
Il y a un bel exemple qui n'est pas à Branly, mais qui vient de Suède. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Et il y a un totem comme ça, suédois, qui était pris dans une société proche, qui était les Islas de Colombie-Britannique.
Patrick Prado.
Et le pauvre restant de cette société, ils sont quelques dizaines peut-être maintenant, parce que tous les autres ont été exterminés par les maladies occidentales à la fin du 19e siècle, ont demandé que la société qu'ils puissent récupérer ce totem que les Suédois avaient, je sais plus s'ils l'avaient acheté ou volé, enfin comme nous, pareil, au début avant la guerre de 14, avant la Première Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, ils le réclament pour le faire pourrir, selon leur culture, pour honorer leur mort, puisque cette société est en train de mourir. Et dire au moins on va mourir avec notre totem. Et selon leur culture, les Suédois disent non parce que nous on conserve dans tous les sens du terme.
Conservateur,
et on conserve ces objets-là et nous on va pas les laisser mourir. Alors ce qu'on a fait, on a trouvé la solution suivante qui montre que les sociétés occidentales sont plus compliquées que complexes. Ils ont fait deux copies. une copie aura le droit d'une copie exacte, hein, avec le même bois, à portée du bois de là-bas, des cèdres. Donc, une copie aura le droit de repartir là-bas. L'original aura le droit de repartir là-bas. Une troisième copie restera sur place. Les deux premières. L'original n'aura pas le droit d'être dressé comme un poteau funéraire comme il l'était, mais sera conservé allongé, couché, dans un cercueil en verre, disons, un cercueil en verre. L'autre, la copie, aura le droit de pourrir debout là où était autrefois l'original, donc à côté de l'original. Et le troisième pourra demeurer pour l'éternité debout dans un musée suédois. Vous voyez, pour trouver une solution à la position d'un objet qui était fait pour honorer la dernière vie des morts de cette société, on est obligé de fabriquer des copies et des copies. Et
ce que vous dites est passionnant, parce que là on a une controverse.
On est au cœur du problème.
On est au cœur du problème.
Absolument.
Là, il y a une controverse, il y a une polémique. On a des gens qui se disent, oui, alors comment vivent les autres? Les autres arrivent et disent, nous, totem, pourrissement, culte des morts. Et l'autre dit, oui, mais nous, on veut conserver. Ce qui, après tout, est une vision des choses. Et oui. Pourquoi pas? Oui. Mais on tient compte d'un autre regard, celui du pourrissement, de la disparition, de rendre les choses à la nature. Et là, on a un dialogue. Là, il y a passerelle. Et là, il y a dialogue. Moi, j'apprends en vous écoutant. Je sais pas ça du tout. On est tous en train d'apprendre quelque chose. À Branly, franchement, entre nous, je n'apprends rien. À part, qu'est-ce que c'est beau,
pourtant,
qu'est-ce que c'est
beau. Si vous, c'est beau. On remarque tous, au bout d'un certain temps, que tous les objets de Branly sont tous à moitié pourris. On l'a figé, leur pourrissement, par des produits chimiques extraordinaires, on les a lyophilisés, re-résinés et tout, mais ils sont tous dans un état de dégradation avancée, ce qui est extraordinaire, ce qui les rend encore plus forts, moi je trouve, que des objets, et ça serait intéressant qu'ils puissent continuer à pourrir quelque part. Mais on ne dit pourquoi Branly n'avoue pas, ces objets sont des objets comme l'enchanteur pourrissant. Et je trouve que là, l'expression est bienvenue.
Enchanteur pourrissant, en tout cas, pour Séméga et Posso, les deux amis, l'un du Mali et l'autre de la Côte d'Ivoire, qui étaient venus de Cachan, du gymnase qu'ils occupaient à Cachan jusqu'à ce musée, le pourrissement n'a peut-être pas tout à fait le même sens. Maintenant, après avoir vu ça, c'est le retour à Cachan. Comment vous trouvez la visite quand même?
Oui, bon, nous pensons que les Blancs ont toujours besoin de ce que nous fabriquons chez nous, mais ils n'ont pas besoin de chez nous-mêmes, c'est ça le problème.
Ils n'ont pas besoin de vous?
Pas besoin de nous. On ne comprend pas ça, on pose la question, pourquoi ça?
C'est d'accord.
C'est vrai ce qu'il vient de dire, moi je suis certainement d'accord avec lui, parce que déjà... Deux toilettes pour 200 personnes et 6 douches pour 200 personnes. Et on vient trouver que nos ancêtres, les choses qu'ils ont fait, qu'on vient trouver, ils vivent mieux que nous-mêmes. Mais c'est incroyable. Ils sont bien protégés que nous.
Oui, c'est ça. Les tambours sont mieux protégés, les statues.
Qui fabriquent ces tambours-là. C'est ça.
C'est que la France, ils ont besoin de ce que nous, on fabrique, ils n'ont pas besoin de nous. Lorsqu'ils avaient besoin de nous, le temps est passé parce qu'on est venu ici pour défendre la République française. Maintenant, ils n'ont plus besoin de nous. On nous jette maintenant comme des moutons. Avant, on nous attachait pour nous ramener, mais maintenant, on nous attache pour nous ramener chez nous. C'est incroyable.
Merci à tous, merci à Séméga, Gaoussou et à Pozo Inza. Merci à Stéphane Mathieu du collectif des 1000 de Cachan. Merci à Patrick Prado. Merci à Pierre Ahmed Ba. Merci à Bernard Dupeigne. Je rappelle le titre du bouquin qu'il a publié aux éditions Mille et Une Nuits, Le Scandale des Arts Premiers. Merci aussi à Véronique Jolivet de l'INA pour des archives. À lire dans le numéro 8 de la revue Medium de Régis Debray, un article de Patrick Prado du Musée de l'Homme au Quai Branly. Et toutes ces informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis, ainsi que les informations concernant les repères des amis de Là-bas si j'y suis, qui marchent très bien, tout roule. Je vous rappelle ce que sont les repères des amis de Là-bas si j'y suis. Quelque part, vous habitez un quartier, un village, une ville, peu importe, vous vous dites que dans le coin il y a des auditeurs qui écoutent, il y a des gens qui écoutent aussi Là-bas si j'y suis, même si c'est une espèce en voie de disparition, il y en a quand même encore un peu. Et vous avez peut-être envie de vous rencontrer, de discuter de tout ce que vous voulez au sujet de cette émission comme du reste. Et à ce moment-là, vous créez un repère des amis de Là-bas si j'y suis. Vous trouvez un bistrot sympa avec un patron, une patronne sympa. Et puis vous décidez de votre programme. Et on va se réunir tel jour. Et puis après, vous vous organisez comme vous l'entendez. Et c'est ce que vous font pas mal, bientôt une cinquantaine de repères qui fonctionnent comme ça à travers notre bel hexagone. À la technique aujourd'hui, Jean-Noël Vélan et Éric Morin. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Pascariello. Et c'est Christophe Imbert qui vous écoute avec ses grandes oreilles rouges sur le répondeur, qui écoute les messages que vous laissez sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Les oreilles qui rougissent quand il y a beaucoup de messages. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com.